que Dieu soit glorifié. On va sans plus tarder ouvrir nos cœurs et aussi plonger nos regards dans la parole de Dieu. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'une certaine vertu qu'on appelle la maîtrise de soi. Ah, j'ai entendu un « ah ». Quelqu'un a dit que le plus grand signe de noblesse est la maîtrise de soi. Et d'ailleurs, elle confère plus de dignité au roi que sa couronne. Et puis, il y a un autre qui a dit aussi, toujours parlant de ce thème de la maîtrise de soi, « Peu d'obstacles résistent à l'homme, j'ai envie de dire la femme, qui sait se maîtriser. » Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la maîtrise de soi ? Eh bien, la maîtrise de soi, c'est la capacité qu'un être humain, un homme, une femme, de pouvoir dominer, contrôler ses émotions, ses sentiments, ses réactions ou pulsions à travers les différentes circonstances de sa vie. La maîtrise de soi, c'est aussi la capacité à ne pas réagir dans la précipitation et sans réflexion préalable. Quand on parle de maîtrise de soi, on parle aussi, pour certains, de self-control, même de tempérance. Est-ce que nous sommes tempérants ? Est-ce que nous avons la maîtrise de soi ? Frères et sœurs, c'est une question à nous poser. Et je voudrais vraiment, ce matin, peut-être commencer par souligner l'importance pour chacun d'entre nous, d'avoir de la maîtrise de soi-même au travers de notre marche chrétienne. La maîtrise de soi est une vertu qui est indispensable à notre vie chrétienne. Pourquoi ? Parce que d'une manière pratique, elle va concerner tout notre être. Nous avons besoin constamment de maîtrise de soi, par exemple au niveau de notre corps. Et juste pour donner un exemple, au niveau de la langue. Savoir maîtriser notre langue. Qui, vous le savez, c'est vrai, un petit membre, tout petit, je ne vais pas vous demander de tirer la langue ce matin. Mais c'est un petit membre, mais qui, en retour, est difficilement maîtrisable. Et on a l'épître de Jacques, dont l'auteur s'est exprimé de la manière suivante, de Jacques chapitre 3 et le verset 2, un premier verset. J'aimerais vous lire ce passage dans la version Parole vivante. Et il nous est dit ensemble, on va le lire, Jacques chapitre 3 et le verset 2. Je vous laisse peut-être le lire avec votre propre Bible, avec peut-être votre propre version. Souvent, c'est la version Louis II que nous utilisons. Celle-là est aussi intéressante. Donc, nous lisons ensemble Jacques chapitre 3, verset 2. « Chacun de nous fait des fautes sur bien des points et de bien des manières. Celui qui ne commettrait jamais de faute dans ses paroles serait un homme parvenu à l'état d'adulte. » Il y a d'autres versions qui disent « ce serait un homme ou une femme parfait ou parfaite. » Capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Et je nous pose cette question, y a-t-il un tel homme ou une telle femme dans cette salle ? S'il vous plaît, levez la main, que je puisse vous repérer. Soyons honnêtes, il n'y a pas d'homme parfait. Pourquoi ? Parce qu'en tout cas, on a cette langue qui est difficilement maîtrisable. D'ailleurs, l'apôtre Jacques dira toujours dans ce même épître qu'aucun homme ne peut dompter la langue. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un psalmiste, il me semble, c'est David, qui le dit dans l'un de ses psaumes. Il dit « Ô Seigneur, mets une garde à ma bouche. » Et j'ai l'impression que le nom de cette garde, c'est ni plus ni moins la maîtrise de soi. On a parlé de la langue, je pourrais aussi parler de savoir aussi canaliser toutes les pulsions, les désirs de notre chair. Paul, par exemple, a dénoncé l'ivrognerie comme les excès de table, comme faisant partie des œuvres de la chair, et qu'il nous faut également maîtriser. On le sait, tout excès nuit. C'est Salomon qui dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, on peut lire un deuxième passage, Proverbes, chapitre 23, les versets 20 et 21, il dit « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. » Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui se régalent des viandes et qui en font un excès ? Verset 21, « Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. » On a besoin de la maîtrise de soi au niveau de notre corps. Mais aussi, on a besoin de la maîtrise de soi concernant nos sentiments et également nos émotions. Et je le dis, que d'erreurs commises, que de péchés commis, que de dommages ont été causés juste à cause d'un manque de maîtrise de nos sentiments et de nos émotions. Et là aussi, je pourrais prendre l'exemple classique, c'est celui de la colère. Qui ne s'est pas, à un moment donné, emporté, un bien par ce sentiment, un bien de colère, mais qui a fait après, par la suite, tellement et tellement de dégâts. C'est l'apôtre Paul qui, en parlant de la colère, va dire la chose suivante, Éphésiens chapitre 4, les versets 26 et 27. Éphésiens chapitre 4, les versets 26 et 27. Je vous laisse aussi le temps de chercher ce passage qui est intéressant et qui nous révèle des vérités au travers de ces deux versets. L'apôtre Paul dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Et puis verset 27, donc le verset suivant, « Et ne donnez pas accès au diable. » Et déjà dans ces deux versets, on voit déjà deux révélations qui sont importantes pour nous. Premièrement, par rapport au verset 26, « La colère n'est pas un péché. » Est-ce que vous le saviez ça? Mais par contre, si nous laissons libre cours à cette colère, si nous ne savons pas la canaliser, finalement si nous ne savons pas la maîtriser, effectivement cette colère peut devenir péché. Et puis la deuxième vérité, eh bien, on le voit au travers de ce verset 27, il nous est dit « ne donnez pas accès au diable ». Autrement dit, une colère qui n'est pas maîtrisée, une colère eh bien, dont on laisse libre cours eh bien, donc la furie est capable d'être une porte grande ouverte et même une porte entrouverte pour le diable. Et des exemples, il y en a tellement dans la Bible. Il y en a tellement, même autour de nous. C'est pas sur mes notes, mais je me rappelle de ce jeune homme, un adolescent, qui fréquentait notre église. Ça se passait sur Toulouse. Et il n'était pas forcément converti. Et pour preuve, à un moment donné, il était pris d'une colère. Et dans la cuisine, il a eu une altercation très virulente avec son papa. Et pris de colère, il a pris un couteau et il a blessé son papa. Plusieurs. Et puis, réalisant ce qu'il a fait, il a jeté le couteau et pris de panique, il s'est enfui. Je ne vous raconte pas la suite de l'histoire, elle est tellement macabre. Vous savez, on ne se rend pas compte qui se connaît. Et on est capable, mais sous le coup de la colère, de faire des choses dont on aurait à regretter par la suite. Je prends un autre exemple, cette fois-ci il est dans la Bible, c'est eh bien, le roi Hérode. Vous savez, à un moment donné, il a été drôlement contrarié. On peut le lire au début eh bien, de l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 2 et le verset 16. Regardez ce qu'il est dit. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, il avait demandé effectivement aux mages qui devaient venir rendre hommage à l'enfant Jésus, eh bien, Hérode leur avait demandé de pouvoir lui communiquer l'adresse exacte là où il demeurait. Et les mages divinement avertis par des anges ne sont pas retournés vers Hérode pour lui avertir eh bien, où se trouvait le petit enfant. Et il nous est dit, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et qu'est-ce qu'il fit? Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Voilà un exemple typique de ce qu'est capable eh bien, de pouvoir produire la colère qui n'est pas maîtrisée. Remarquez avec moi au verset 16, il nous est dit, Hérode se mit dans une grande colère. Donc c'est lui qui a choisi de se mettre en colère. Donc c'est lui qui a laissé libre cours à la colère. Souvent on a cherché tellement de démons, mes amis, derrière la colère, alors qu'on voit bien, effectivement, pour ce cas-là, eh bien, qu'Hérode lui-même a laissé libre cours à sa propre colère. Et ce qui a donné accès au diable, puisque le diable l'a inspiré un plan machiavélique, un plan horrible dans tout le territoire de Bethléem de tuer tous les enfants âgés de 2 ans et au-dessous. Quel massacre ce jour-là! Quelle horreur! Et vous l'avez compris, Dieu ne veut pas que nous suivions un tel exemple. Il désire que nous arrivions à maîtriser notre colère. Et d'ailleurs, la Bible parle de celui ou celle qui choisit de maîtriser sa colère. Regardez ce qu'il est dit, par exemple, dans Proverbes chapitre 16, verset 32, « Ne le cherchez pas, je pense qu'il sera projeté, oui. » « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. » Y a-t-il des héros dans la salle? Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. « Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Soyons maîtres de nous-mêmes. et ne laissons pas eh bien, la colère nous emporter, même face à une injustice. Au contraire, eh bien, lorsque nous vivons une injustice, eh bien, Dieu voudrait que nous puissions nous en remettre tout simplement au Seigneur. Regardez ce qu'il est dit également dans Romains chapitre 12 et le verset 19. Romains chapitre 12, verset 19, un verset qui est aussi intéressant. Romains chapitre 12 et le verset 19. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. » Tiens, comment pouvons-nous comprendre ce passage ? Laissez agir la colère. Autrement dit, hein, l'apôtre Paul nous invite à pouvoir laisser libre cours à la colère. Vous l'avez compris comme ça, vous ? Mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Au fait, il y a deux manières pour comprendre ce texte. Quand l'apôtre Paul nous dit de laisser agir la colère, autrement dit, laissez-la s'apaiser cette colère. Maîtrisez-la, ne la laissez pas eh bien, se manifester dans toute sa splendeur, mais maîtrisez-la, domptez-la. Et puis on peut la comprendre d'une autre façon qui, à mon sens, est peut-être la plus correcte par rapport au contexte de ce verset. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir, pas notre colère, mais la colère divine, la colère de Dieu. Autrement dit, je vais paraphraser, mais laissez agir, eh bien, laissez le Seigneur prendre votre affaire en main. Laissez la sainte colère de Dieu se manifester, parce que la colère de Dieu, elle est sainte. Et puis elle est juste. Par contre, la colère eh bien, des hommes n'accomplit jamais, au grand jamais, la justice de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Voilà quelques exemples. J'aimerais maintenant peut-être vous donner quelques aussi personnages bibliques, partager l'exemple de quelques personnages bibliques qui ont exercé la maîtrise de soi. Et j'ai voulu placer là sur mes notes l'exemple de Joseph. Nous connaissons tous le parcours de notre ami Joseph. Joseph avait beaucoup de frères et vous savez le drame familial qui s'est passé à un moment donné puisque ses frères donc l'ont livré aux marchands d'esclaves. Vous pourrez relire toutes ces choses dans Genèse, tous les chapitres 42 à 45. Quelle histoire, quelle épopée! Joseph qui a été livré, vendu par ses propres frères. Et puis, on découvre par la suite, au fil des années, eh bien, que Dieu a fait grâce à Joseph et l'a élevé à la deuxième place de tout eh bien, le royaume égyptien. Il était le numéro 2, on allait dire, le gouverneur ou le premier ministre de toute l'Égypte. Et puis, un jour, Dieu permet, par les circonstances, eh bien, qu'il se trouve face à ses frères. Ces derniers ne le reconnaissent pas, mais lui voit bien et reconnaît bien ses frères. Et je me dis avec vous qu'à ce moment-là, il avait toutes les raisons du monde pour pouvoir laisser libre cours à sa colère. Il avait là la possibilité de manifester eh bien, une forme de vengeance à l'égard de chacun de ses frères. Il pouvait par exemple les torturer, je ne sais pas, ou même voir les faire mourir. Mais il n'a rien fait de tout cela. On connaît cette histoire, Joseph au contraire, eh bien, il a choisi de maîtriser en lui tout désir de vengeance. Mieux encore, vous le savez, il a pardonné ses frères. Et je crois que c'est un exemple que nous devons suivre. Vous savez, on peut être chrétien et puis avoir été blessé, offensé au plus profond de nos cœurs. Et Dieu attend que nous puissions avoir les bonnes réactions pour pouvoir ressembler à Joseph et pouvoir dire, ben Seigneur, je m'en remets à toi. C'est toi le juste juge. Mais je ne veux pas laisser libre cours eh bien, à ma colère et encore moins donner accès au diable. Frères et sœurs, quand nous laissons eh bien, le diable eh bien, s'en mêler, c'est le début de la fin. L'exemple que je pourrais également mettre devant nos yeux, c'est celui du Seigneur Jésus. C'est lui qui nous rassemble en cet instant. Et croyez-moi, eh bien, durant tout son ministère terrestre, combien de fois il a usé une maîtrise de soi? Combien de fois il s'est retenu? Lui, le créateur de toutes choses, lui, Dieu, il est l'égal même de Dieu, il a marché sur la terre des hommes. Mais combien d'offenses il a reçues? On lui a craché au visage, vous le savez. Est-ce qu'on vous a déjà craché au visage? C'est pas évident. Hein. Et là, il n'y a pas chrétien ou pas, etc. C'est pas évident, l'offense, elle est là. On lui a craché au visage. On l'a frappé. On s'est moqué de lui. On l'a flagellé. Mais Jésus, en tout cela, n'a jamais rendu le mal. Il aurait pu dire œil pour œil, dent pour dent, mais ce n'est pas ce qu'il a enseigné à ses disciples. Il a dit au contraire, bénissez vos ennemis, priez pour eux. Et Jésus a manifesté l'amour. Et je crois, quel enseignement pour nous, si on pouvait même retenir juste ça et le mettre en pratique, eh bien, nous serions eh bien, les plus heureux du monde. 1 Pierre chapitre 2, du verset 20 au verset 23. Là aussi, j'aimerais vous lire ce passage dans la version Parole de vie. 1 Pierre chapitre 2, du verset 20 au verset 21. En effet, si vous avez fait le mal, quel mérite avez-vous à supporter les coups ? Mais par contre, si vous souffrez avec patience, quand vous avez fait le bien, c'est une belle chose devant Dieu. Verset 21, il nous est dit, « Oui, c'est à cela que Dieu vous a appelé. Le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. » Verset 22, « Lui, il n'a pas fait le mal. Il n'a jamais trompé personne. » Et enfin, « Lui, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu insulte. Quand il a souffert, il n'a menacé personne. Mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. » Et Jésus, par la bouche de l'apôtre Pierre, nous invite à pouvoir faire de même. C'est important. Vous savez, il y a le côté théorique de la vie chrétienne et puis il y a surtout le côté pratique. Et je crois que pour réussir avec Dieu, pour s'épanouir en Jésus, pour marcher de victoire en victoire, Dieu nous attend bien sous le terrain de la mise en pratique de sa parole. Et c'est là bien que nous sommes victorieux et que nous serons bénis en retour. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus, on lui a même giflé ? Est-ce que vous avez lu cette histoire dans la Bible ? À un moment donné, Jésus qui comparaît devant le souverain sacrificateur, et puis ce dernier lui pose une question et lui... Il répond tranquillement, gentiment, et puis il y a un huissier qui vient et qui le gifle. On peut lire cette histoire dans Jean chapitre 18, du verset 19 à 21, on va le lire ensemble. Peut-être nous imprégner et nous rappeler que oui, il était parfaitement homme, mais il était parfaitement Dieu à ce moment-là. J'ai pensé à cet homme, cet huissier dont on ne connaît pas le nom. Je veux croire, je veux vraiment espérer qu'il ait eu, même dans ses derniers instants sur terre, l'occasion de se repentir. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » Et verset 22, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus. Un soufflet, c'est une gifle. En disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ? Et regardez la maîtrise divine, la maîtrise du Seigneur Jésus. Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Frères et sœurs, allez... Plongeons-nous dans cette histoire. Au même lieu, prenons la place de Jésus. Honnêtement, quelle aurait été notre attitude ? Oh, chacun doit parler pour sa part, hein ? Quelle aurait été notre attitude, honnêtement ? Ah, c'est pas évident, hein ? On aurait là comme rongé notre frein, prêt à pouvoir bondir. Alors là, c'est vrai, œil pour œil, dent pour dent. Et puis, quelqu'un va même tordre l'essence de l'écriture en disant « il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Eh bien, à la place du Seigneur Jésus. En tout cas, quel bel exemple de maîtrise de soi. Seigneur, je veux te ressembler en tout point. Je veux te ressembler en tout point. Et vivre cette maîtrise de soi. Il est donc important, frères et sœurs, que nous puissions rechercher à pouvoir développer la maîtrise de soi au dedans de nous. Et par nous-mêmes, c'est certainement difficile à faire, mais le Saint-Esprit... qui est venu habiter en nous, est celui qui se propose de nous aider. Parce que vous le savez mieux que moi, l'un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, la tempérance. Il nous est dit, on peut relire ce magnifique passage de la Bible, Galates, chapitre 5, et les versets 22 et 23. Juste le verset 22, ça suffira. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi ? Allez, aidez-moi. L'amour, tout va bien, la joie, la paix, la patience, quoi encore ? La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et enfin la tempérance. Et ce n'est pas pour rien qu'il a été placé à la fin. les fruits de l'esprit sont comme enveloppés de vertus très importantes. Premièrement, l'amour, parce que l'amour est en tout le premier. Et puis enfin, c'est terminé par la maîtrise de soi, la tempérance, qui est utile pour nous dans tout notre être, pour arriver à canaliser nos émotions, nos sentiments. On a besoin de cette maîtrise de soi. Le Saint-Esprit communique aux chrétiens la capacité de manifester la maîtrise de soi. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs, le Saint-Esprit va nous aider à être pleins de maîtrise de nous-mêmes, dans les circonstances, dans les situations, quelquefois même qui nous surprennent. On va même nous-mêmes en retour être surpris de notre réaction, parce que le Saint-Esprit aura pris le relais. Entre-temps, on aura crucifié la chair et on aura fait le choix de pouvoir suivre le Saint-Esprit dans ce à quoi il nous conduit. Vous savez, à l'instant même, ce n'est pas tant nos actions qui sont importantes, c'est plutôt nos réactions. Dans la vie que nous vivons, dans toutes les circonstances, Dieu attend de voir nos réactions. Et nos réactions, soit nous obéissons à notre chair, ou soit nous sommes sensibles à la voix du Saint-Esprit qui nous montre notre chemin, qui nous montre le chemin de l'épanouissement, le chemin où nous serons les uns les autres victorieux, même face à l'offense. Je nous pose une question: qu'est-ce qui, selon vous, peut caractériser le mieux un chrétien ou une chrétienne spirituellement mature? Parce que c'est ça, marcher de progrès en progrès, c'est de devenir un homme, une femme mature, sur le plan spirituel. Ne plus être charnel, mais devenir des hommes et des femmes spirituels et matures. Qu'est-ce qui caractérise le plus ou le mieux un chrétien ou une chrétienne spirituellement mature? La réponse, elle est là: la manifestation des fruits de l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Pourquoi vous n'avez pas dit amen? C'est important. Vous savez, moi, je ne me laisse pas impressionner par les dons spirituels. Les dons spirituels, la Bible dit dans le livre de Corinthiens, le Saint-Esprit donne à qui il veut, comme il veut. On reçoit des dons, mais c'est le Saint-Esprit qui, à un moment donné, nous sollicite pour pouvoir les exercer. Par contre, je suis impressionné par un frère, une sœur qui manifeste les fruits de l'esprit. Comme on les a cités, les 9 fruits de l'esprit. Et n'allez pas me dire que quelqu'un qui exerce les dons spirituels est forcément quelqu'un qui est spirituellement mature. On peut exercer les dons spirituels et ne pas être du tout mature. Et je pourrais vous le prouver. La preuve, on a l'exemple des chrétiens qui se trouvaient dans l'église de Corinthe. N'avaient-ils pas les 9 dons? Pourtant, à côté de ça, Paul a écrit. Et il a écrit une lettre, une deuxième lettre, pour rectifier le tir. Parce qu'au beau milieu de cette église, et c'est là où se trouve tout le paradoxe, au beau milieu de cette église où ils exerçaient les dons spirituels et les 9 dons, c'est extraordinaire. À côté de ça, il y avait des gens qui étaient jaloux. Il y a des gens qui étaient dans les disputes, dans les querelles. Il y avait même de l'impudicité, il y avait même de l'inceste, frères et sœurs. Vous voyez le paradoxe? Autre part, Jésus va dire que ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui feront la volonté de mon Père. Et certains viendront au dernier jour devant le Seigneur argumenter: mais Seigneur, j'ai chassé des démons en ton nom, Seigneur, j'ai même guéri des personnes en ton nom, etc. Mais Jésus va leur dire en retour ouvertement: je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Par contre, un chrétien spirituellement mature manifeste le caractère de Christ à travers les 9 fruits de l'esprit. Je ne sais pas si on peut le faire, mais replacer sous l'écran les neuf fruits de l'esprit, excusez-moi. Galates chapitre 5 et le verset 22. Regardez ce qu'il est. L'amour, voilà le premier fruit. Et puis en plus, à cela, la joie. Est-ce que nous sommes joyeux ce matin de nous retrouver, masque ou pas masque, on s'en moque, c'est pas ça l'important. La paix. Est-ce qu'on est tranquille? Déjà, être en paix avec Dieu, être en paix avec le prochain, et puis surtout être en paix avec soi-même. Est-ce qu'on est des gens patients? Quand il faut faire les longues queues. Hier, on a été à un magasin avec mon épouse, il y avait une queue, on voyait même pas le bout. Est-ce que nous sommes pleins de bonté? Est-ce que nous sommes pleins de bénignité? Est-ce qu'on cherche à bénir l'autre? Est-ce qu'on est bienveillant à son égard? Est-ce qu'on est des gens, des hommes, des femmes fidèles? Est-ce que nous sommes pleins de douceur? Ou est-ce qu'également nous sommes pleins de maîtrise de soi? Voilà ce qui est important. Oui, l'homme mature, il saura manifester toutes ces choses et mieux encore son, leur fruit, le fruit de l'esprit, hein, bien, qui va émaner, qui va transpirer au travers de leur personne, sera être un sujet de bénédiction pour ceux et celles qui seront à son contact. Et mieux encore, eh bien, ce fruit manifeste pourra glorifier notre Père Céleste. Oui, le Saint-Esprit, heureusement qu'il est là. Nous sommes les gens de la Pentecôte. Et plus que jamais, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin de réclamer la personne du Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu, viens, remplis-moi. Alléluia, de l'amour de Christ. Oui, Dieu, par son Esprit Saint, est prêt à pouvoir nous aider à manifester les fruits merveilleux. Alléluia, de sa personne, entre autres la maîtrise de soi. Mais il y a néanmoins, et je veux terminer par cela, une chose que nous ne devons pas oublier. L'exercice de la maîtrise de soi dans notre vie chrétienne nécessite aussi un effort de notre part. Et c'est là où j'aurais aimé entendre un amen. Oui, il y a notre part. Dieu est prêt à faire sa part. Il est fidèle, il ne change pas. Même, il a dit, quand nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Mais on a également notre part. Et cette part, eh bien, on la trouve exprimée au travers de l'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, du chapitre, au chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 6. Je vous laisse le temps de chercher et faire cet effort, on parle de pouvoir trouver ce passage, puisqu'il est question justement d'effort. Regardez, 2 Pierre chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 6. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. En quoi faisant ? En quoi faisant ? En fuyant la corruption, et on continue, qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 15. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre, alors je souligne bien, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, quoi ? La vertu. À la vertu, la science, autrement dit la connaissance, mais à la science, la connaissance, la tempérance. On revient sur notre thème d'aujourd'hui, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, eh bien, quoi d'autre encore ? Il n'y a pas autre chose ? La communion fraternelle. Et la communion fraternelle, eh bien, tout simplement, l'amour, autrement dit, la charité, l'amour divin, l'amour agapé. Et c'est peut-être à ce niveau que ça coince, frères et sœurs. C'est peut-être à ce niveau que ça coince. Dieu, par son esprit, fera toujours sa part. Je l'ai dit, il est fidèle. Il ne change pas. Mais à notre niveau, est-ce que nous sommes prêts à, et est-ce que nous sommes toujours disposés à faire notre part ? Quelle est cette part ? On la lit, je l'ai insisté dessus, faites tous vos efforts. Et l'effort dont il est fait mention ici, c'est juste, eh bien, cela fait appel à notre volonté. Est-ce que nous voulons, oui ou non, faire des progrès au niveau de la maîtrise de soi ? Ou est-ce qu'on va continuer à chercher des excuses devant Dieu en disant, ah ben, moi c'est ma nature, moi je suis un gars très impulsif, moi je suis ceci, cela ? Ou est-ce qu'on va accepter, et c'est là où réside aussi notre effort, eh bien, de nous soumettre à la volonté de Dieu ? Parce que pour obéir à Dieu, il y a un effort de notre part. Dieu, je l'ai dit, fera sa part. Mais notre part, aussi si infime soit-elle, eh bien, elle est importante et indispensable si nous voulons voir la maîtrise de soi se développer en nous. Il s'agit pour nous de faire notre part et Dieu fidèlement fera la sienne. Et un exemple parmi tant d'autres, quelqu'un qui a plus que fait des efforts, c'est notre ami l'apôtre Paul, cet homme qui a été complètement transformé par Dieu. Alors qu'il partait bien arrêter des chrétiens, il a été arrêté sur le chemin de Damas. Et là, une vision, le Seigneur qui se révèle à son cœur. Cet homme a été littéralement transformé. Et il encore nous exhorte au travers de toutes ces épîtres. Et il dit, entre autres, dans 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 27, il dévoile un petit peu ce qu'est son combat, ce qu'est aussi sa bataille de chaque jour, j'ai envie de dire. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, je vais vous lire ce passage dans la version Semeur. Et il dit, « Mais je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Il dit, je le maîtrise sévèrement. Une autre version, la version Louis II, dit, je traite durement mon corps. C'est quand même assez fort. Mais ça ne veut pas dire que l'apôtre Paul était là avec un fouet à se flageller ou à bien se faire subir donc des sévices, non. Mais il s'appliquait d'une manière ferme à pouvoir toujours maîtriser, alléluia, ses pulsions, maîtriser son corps avec toutes ses convoitises, afin que, eh bien, il ne soit pas lui-même disqualifié. Il tenait en bride, il maintenait sous son contrôle, eh bien, son corps. Et nous aussi, on a besoin de mettre, eh bien, sous le contrôle du Saint-Esprit, eh bien, tout notre être tout entier. C'est ce que veut dire l'apôtre Paul, autre part, quand il dit « j'ai crucifié la chair ». C'est ça. Ne pas permettre, ne pas écouter, eh bien, ces pulsions, ces émotions, et ne pas laisser libre cours, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, à la colère. Mais tout cela, le crucifier avec Christ sur la croix, afin que nous puissions renaître spirituellement dans cette vie mature avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons donc maîtriser notre corps et tout faire pour le soumettre à la volonté divine. Que dire en conclusion ? Proverbes chapitre 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Une personne qui n'a pas de maîtrise d'elle-même, elle est sans défense. Voilà ce que dit le texte. Elle est vulnérable face aux diverses sollicitations, tant extérieures qu'intérieures, parce que quelquefois, eh bien, les émotions, tout ça, ça vient de l'intérieur. Eh bien, l'homme qui n'a pas de maîtrise de soi est impuissant, comme une ville forcée sans murailles. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et c'est pourquoi il est important d'apprendre à pratiquer la maîtrise de nous-mêmes au quotidien. En face, et peut-être face donc à ce défi, qui, il faut être honnête, nous sommes bien impuissants, mais par contre le Saint-Esprit, lui, eh bien, se propose de nous aider, nous assister. Ce défi, eh bien, avec le Saint-Esprit, nous pouvons le relever. Alors c'est pour cela que plus que jamais, cherchons à être continuellement, frères et sœurs, remplis du Saint-Esprit. Les mardis, nous avons commencé, donc mardi dernier, certainement, eh bien, à un moment donné, on prendra le temps de pouvoir rechercher, eh bien, être remplis les uns les autres du Saint-Esprit. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore été bâties dans le Saint-Esprit. Il faut qu'on ait cette soif pour que réellement nous soyons imbibés de toute la personne du Saint-Esprit. Car quand je suis imbibé de la personne du Saint-Esprit, je manifeste la nature, le caractère même de Christ au travers des fruits de l'Esprit. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ce message ce matin, qui est très simple, mais Dieu, comme je l'ai dit, nous attend bien à la mise en pratique, que nous puissions être des hommes et des femmes qui sont connus et réputés pour bien savoir maîtriser leur être tout entier. Et cela, c'est faisable, c'est possible, si bien nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Peut-être un passage que j'aurais pu lire également, c'est, et on va terminer par cela, Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Galates chapitre 5, versets 16 et 17, et puis après quoi nous allons prier. La Bible dit, Galates chapitre 5, versets 16 à 17, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » On a besoin de marcher par le Saint-Esprit. Et si je marche par le Saint-Esprit, je manifesterai les fruits de l'Esprit, entre autres la maîtrise de soi. Prions ensemble le Seigneur, frères et sœurs. Seigneur, tu nous instruis, tu nous enseignes. Seigneur, Père, tu as dit par la bouche de ton Saint-Fils, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et cette perfection consiste aussi à pouvoir développer les fruits de l'Esprit au travers de nos vies. Et ce matin, tu nous as parlé de la maîtrise de nous-mêmes. Seigneur, combien de fois, Seigneur Père, nous avons laissé le vieil homme, Seigneur, revenir à la charge. Combien de fois nous avons laissé libre cours. On a parlé tout à l'heure de la colère. Mais Seigneur, tellement d'autres émotions coupables devant toi. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous à nous rassembler pour être meilleurs et non pas pour être pires. Donne-nous à faire des progrès certains dans notre marche, dans notre vie chrétienne, afin que nous soyons des sources de bénédiction pour ceux et celles qui seront et qui sont à notre contact. Mais donne-nous aussi, hein, Seigneur Père, mon Dieu, à manifester, à mettre en pratique, Seigneur, mon Dieu, tes commandements, pour que nous soyons, Seigneur Père, nous puissions glorifier ton Saint-Nom au travers de nos vies. Seigneur Père, tu vois peut-être ceux et celles qui ont des difficultés au niveau de la colère ou d'autres domaines et qui ont besoin de maîtrise d'eux-mêmes. Je te prie dans ta grâce de les assister, de les aider, de les libérer de toute forme d'excès, de leur donner une vie équilibrée, une vie modérée, une vie tempérée. Seigneur Père, mon Dieu, tu leur donnes, Seigneur Père, à ne point écouter leur chair, mais comme nous venons de le lire, à marcher selon le Saint-Esprit, à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Je te le demande, Père, dans le nom précieux de Jésus, pour la seule gloire de ton nom. Amen.